Voilà, merci Jean-Lionel. Toujours une joie de venir vous visiter, d'être avec vous. Merci aussi à l'Église pour son soutien. Comme Jean-Lionel le disait, c'est un privilège de vous avoir. Sans vous et d'autres donateurs, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. Donc un grand merci à vous tous. Ce matin, je vous propose de lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, et qui va dans la continuité déjà de ce que nous avons vu depuis le début de ce culte. Comme l'a dit Jean-Lionel tout à l'heure, la vie chrétienne ne commence pas par ce que nous devons faire, mais par ce que Christ a fait pour nous. Et puis ensuite se pose la question, et après, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Et ce texte, justement, parle de cela, des conséquences de l'Évangile. Quelques mots de contexte. La lettre aux Romains est écrite dans une période particulière de la vie de l'apôtre Paul. Il a fini son ministère dans le quart nord-est de la Méditerranée, toute la partie qui allait de Antioche en Syrie jusqu'à la Turquie. Et puis il essaye, voilà, si vous avez la carte dans ce sens-là, d'aller jusqu'à l'ouest, toujours plus loin, jusqu'en Espagne. Et alors qu'il est en train de finir ses voyages, il va partir à Jérusalem, et puis il est dans l'idée ensuite d'aller à Rome et vers l'Espagne. Et il espère passer par Rome, parce qu'il apprend qu'il y a une église vibrante ici, lui-même ne l'a jamais visitée, c'est une église qui est née de la Pentecôte, des chrétiens qui avaient entendu l'évangile à la Pentecôte, et puis qui ont créé cette église à Rome. Et si Paul veut aller là-bas, c'est parce qu'il compte poursuivre sa stratégie qui est de partout dans les grandes villes d'établir des bases missionnaires de laquelle il puisse avoir un soutien des ouvriers pour partir plus loin. Et on ne sait pas si Paul aura réussi son projet d'aller jusqu'en Espagne. Il paraît qu'à Marseille, il y a un endroit où il est écrit ici, l'apôtre Paul a marché. Mais voilà, on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'au IIe siècle, on avait déjà des chrétiens ici dans cette ville de Lyon. Donc en tout cas, si Paul ne l'a pas fait, d'autres l'ont fait et ont poursuivi dans sa vision. Dans l'Épître aux Romains, Paul du coup écrit à cette église et pour partir un partenariat solide, eh bien il commence dans les premiers chapitres à leur rappeler quel est le fondement sur lequel leur foi commune est basée. Et s'il veut le faire, c'est parce qu'il prépare son voyage, il veut que quand il arrive, eh bien on soit au clair sur l'Évangile, ce qui est au cœur. Et c'est ce qu'il a fait dans les chapitres 1 à 11. Et puis au début du chapitre 12, il se tourne maintenant vers les aspects pratiques. Qu'est-ce que nous faisons à la lumière de cet Évangile? Qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre? Et dans les chapitres 12, il va surtout insister de la vie dans l'Église, qui est le premier lieu où nous devrions vivre les conséquences de l'Évangile. Et puis ensuite, il parlera du comportement des chrétiens dans le monde, et enfin, de la mission, justement avec cet objectif au chapitre 15, « Accompagnez-moi jusqu'en Espagne pour continuer le progrès de l'Évangile ». Voilà, je vous propose de lire ce texte, Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Paul dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. On a un court texte dans lequel Paul va encourager les chrétiens de Rome à trois choses en conséquence de l'Évangile. D'abord, la consécration, d'avoir une vie consacrée, d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Et puis ensuite, la transformation, d'avoir sans cesse ses pensées renouvelées. Et enfin, un service fidèle, zélé, dans l'Église. D'abord, Paul commence à parler de la consécration. Il leur dit au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Paul invite ces chrétiens de Rome à saisir toute la beauté, toute la gloire qu'il y a dans l'Évangile, et à dire, mais en conséquence, donnez vos vies pour Dieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. C'est intéressant parce que Paul aurait pu reprendre ce qu'il avait dit au chapitre 1. Moi, Paul, apôtre, je vous dis de faire ceci. Et Paul se met au même niveau que frères et sœurs, nous tous bénéficiaires de l'Évangile. Son principe dans son exhortation, ce n'est pas une règle. Tu dois faire ceci, cela pour le Seigneur. Non, c'est une motivation d'amour. Frères et sœurs, nous qui sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, nous sommes invités à consacrer nos vies à lui. Quelle est la motivation de cette consécration? Paul nous dit, ce sont les compassions de Dieu. Tout l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est ce qu'a dit Jean-Lionel tout à l'heure, l'Évangile commence parce que le Christ a accompli pour nous dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que Paul appelle les compassions de Dieu? Eh bien, c'est tout ce qui précède dans les chapitres 1 à 11. Et pour bien comprendre ce dont il s'agit, je vous propose brièvement de reparcourir la lettre aux Romains, les chapitres 1 à 11. Parce que si on comprend bien cela, le reste coule de source. Et dans Romains au chapitre 1, Paul a démarré, d'abord il a eu quelques mots d'introduction, et puis ensuite il a parlé au verset 18 de cet évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'évangile démarre au chapitre 1 avec une mauvaise nouvelle. Verset 19, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Quelle est cette vérité? Eh bien qu'il y a un Dieu et qui existe, et que ça se voit fort bien quand on observe l'univers. Le problème, c'est que les hommes ne veulent pas se tourner vers Dieu. Les païens, chapitre 1, se tournent dans l'idolâtrie. Ils se font des dieux à leur image, ils rejettent le vrai Dieu. Et puis au chapitre 2, il est question des moralistes, ces gens qui voient le mal dans la société et qui pointent du doigt et qui jugent. Et à l'époque de l'apôtre Paul, il y en avait beaucoup. Par exemple, il y avait le philosophe romain Sénèque, un contemporain de Paul, qui avait des mots extrêmement durs sur la société de son temps, qu'il décrit comme débauché, courant à sa perte, etc. Et Paul dit, mais toi le moraliste, tu es inexcusable toi qui juges. Parce que tu juges les autres, mais si on regarde ta vie dans les moindres détails, tu fais comme eux, tu es aussi un pécheur. Et puis il arrive au chapitre 3, et maintenant il parle du juif, celui qui connaît toute la loi de Dieu, la loi de l'Ancien Testament. Et bien qu'il connaisse la loi de Dieu, il est incapable de l'appliquer. Et donc Paul en arrive à cette conclusion au chapitre 3, et il dira « Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains chapitre 3, verset 23. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lui qui a été destiné comme propitiation. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes, mais cette colère est tombée sur le Christ. À la croix, il a donné sa vie, il a versé son sang pour prendre sur lui la colère de Dieu. De telle sorte, celui qui met sa confiance en Jésus, sa foi lui est comptée comme justice. Tu peux être déclaré juste devant Dieu uniquement en croyant que Christ a pris sur lui la colère de Dieu. Et c'est l'occasion de dire que si ce matin quelqu'un se sent pécheur, coupable devant Dieu, eh bien c'est l'occasion de se tourner vers Christ et dire j'ai besoin d'être pardonné. À la croix, Jésus a payé, il a pris sur lui la colère de Dieu. Et Paul nous dit que c'est une bonne nouvelle parce que si Christ n'avait pas fait cela, Dieu ne pourrait pas pardonner les péchés. Dieu explique qu'auparavant, au temps de sa patience, il a pardonné de façon injuste les péchés d'Abraham et de David. Comment peut-on ne pas tenir compte de la faute de quelqu'un? Ce n'est pas juste. Mais maintenant, dans le temps présent, il montre sa justice en condamnant Jésus à la place du coupable. Ainsi, c'est juste de pardonner Abraham, David et nous tous. Il a toujours fait comme ça. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que parce que la justification par la foi marche, chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu. Le Dieu qui était en colère contre nous n'est plus en guerre avec nous. Le traité de paix et scellé. Quelle grâce! Et non seulement nous avons la paix, mais nous avons un avenir plein d'espérance. Un jour, après cette vie, après la souffrance, nous aurons part à la gloire de Dieu. On se dit, ah bon, est-ce que cela, c'est sûr? Oui, c'est sûr, nous dit Paul, l'espérance ne trompe pas, parce que le Saint-Esprit a été mis dans notre cœur. Et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es chrétien, tu devrais avoir la Bible qui te dit « tu es en paix avec Dieu ». Mais tu devrais aussi avoir ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qui te dit « tu es un enfant bien-aimé de Dieu ». N'est-ce pas incroyable? Nous étions ses ennemis, il était en colère contre nous, et tout à coup au chapitre 3, il nous déclare juste, et au chapitre 5, voilà que nous sommes appelés déjà ses enfants. Et puis il continue, et au chapitre 6, nous nous rendons compte que, alors que nous sommes déclarés justes, il y a encore le péché qui est en nous, mais la bonne nouvelle, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus sous la condamnation, le Saint-Esprit maintenant est présent et va nous aider à remporter la victoire sur le péché. Et nous arrivons au chapitre 8, qui nous dit qu'il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non seulement il n'y a plus de condamnation, mais nous sommes ses enfants, des enfants d'adoption. Nous avons l'Esprit en nous qui crie « Abba, Papa, Père !» et qui attend un jour que ce monde soit délivré de la servitude du péché pour que nous ayons part à la nouvelle création. Et Paul, voyant cela, peut dire que ce Dieu qui nous a appelés, qui nous a déclarés justes, il nous a déjà glorifiés, emmenés dans ce monde où tout sera parfait avec Dieu. En ce moment même, il est en train de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et donc Paul a l'assurance que plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis dans les Romains, les chapitres 9, 10 et 11, Paul est en train de montrer que cette œuvre n'est pas simplement pour les chrétiens de Rome, mais qu'elle inclut à la fois les juifs et les païens, et comment Dieu est en train d'agir pour que, par l'endurcissement des juifs, eh bien, tous les païens, les peuples du monde entier puissent entendre l'évangile, être greffés sur Israël, et que de tout cela sorte un seul grand peuple à la gloire de Dieu, par qui sont toutes choses. Et lorsque nous arrivons là, nous devrions dire « Waouh ! N'est-ce pas incroyable ? L'amour de Dieu, les compassions de Dieu, il était en colère contre nous, nous étions tous perdus, les païens, les moralistes, les juifs. Et ce Dieu vient, il donne sa vie dans la personne de Jésus pour que nous puissions être déclarés justes, réconciliés, transformés, adoptés, destinés à la gloire. Et Paul nous dit, mais si ça c'est les compassions de Dieu, si Dieu vous a aimé à ce point-là, alors nous devrions dire, mais je veux donner ma vie pour ce Dieu-là. J'ai envie que tous entendent cette grande nouvelle du Dieu qui déclare juste le pécheur. Je ne peux pas accepter que cette nouvelle soit seulement connue de Jérusalem jusqu'à Rome. Il faut que nous allions plus loin, qu'on aille jusqu'en Espagne. Il faut qu'on aille jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Et c'est pour ça que les chrétiens des premiers siècles avaient tellement à cœur que l'évangile soit répandu, à cause des compassions de Dieu. Ça voudrait dire que nos vies devraient entièrement lui être consacrées. Et Paul insiste en disant nos vies, ce n'est pas simplement nos esprits qui doivent être consacrés à Dieu. Les Grecs auraient aimé ça, ils croyaient à la supériorité de l'esprit. Et puis le corps, ce n'est pas grave, peu importe ce qu'on en fait, c'est secondaire. Paul dit non, c'est tous nos corps, tout notre être qui doit être consacré à ce Dieu qui nous a tellement aimés. Tous les domaines de notre vie. Ça sera quelque chose de raisonnable d'offrir nos corps comme un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice d'expiation dont il s'agit, comme si il fallait souffrir pour mériter quelque chose. C'est plutôt le parallèle dans l'Ancien Testament des sacrifices de reconnaissance. Parce que Dieu nous a tellement aimés, on lui fait don de quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est de notre vie. Et Paul va décrire ce sacrifice comme quelque chose de vivant, de saint, et d'agréable à Dieu. Alors on se dit, mais est-ce que ma vie est ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ? Une mauvaise compréhension serait de croire que Dieu peut refuser le sacrifice de notre vie parce qu'elle n'est pas assez vivante, sainte et agréable. Ce serait une bien mauvaise manière de comprendre ça. Si nous avons bien compris les chapitres qui précèdent, nous savons que du jour où Christ nous a sauvés, nous sommes vivants, libérés de la mort et du péché. Nous sommes saints, séparés de ce monde mauvais, consacré à Dieu. Et nous lui sommes déjà agréables par Jésus-Christ. Et donc nous pouvons offrir notre vie en disant, mais oui Seigneur, prends ma vie, parce que toi-même tu m'as rendu vivant, saint, agréable à toi. Ce sera de notre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte qui fait sens Nous ne pouvons rien faire d'autre que d'offrir notre vie à cause de ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'aux Corinthiens, il dira que Christ est mort et ressuscité afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors peut-être que, comme moi, un jour, vous étiez là le jour de votre baptême et vous avez fait cette belle confession devant un grand nombre de témoins. Et moi, je me souviens, j'avais choisi ce chant, « Tout à toi, que ma vie soit tout à toi ». Et c'était vraiment ma prière. Et puis les années passent et je regarde en arrière et je me dis, « Est-ce que ma vie a vraiment été cette offrande à Dieu ?» Et la réalité, c'est que nos sacrifices vivants, le problème, c'est qu'ils sont vivants. Et des fois, on a tendance à se débattre et à descendre de l'autel. Et nos vies manquent souvent de consécration. On aimerait être entièrement consacré, dire ma vie, elle est totalement au Seigneur dans tous les domaines. Mais souvent, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'il y a des tas de domaines dans notre vie où, attiré par notre chair, par la pensée de ce monde, eh bien nos pensées ont tendance à suivre des chemins qui s'éloignent de l'évangile que nous avons vu avant. L'évangile nous dit « Ah, mais tu es juste aux yeux de Dieu !» Et nous, on a tendance des fois à écouter une autre voix qui nous dit que, ben non, dans notre vie, il y a encore ça qui ne va pas, ou à marcher selon des mécanismes de loi alors que l'évangile nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et ça va souvent nous amener dans des chemins de traverse où au lieu d'aller puiser nos forces dans la grâce de Dieu, eh bien on va chercher des routes de secours, des solutions par nous-mêmes, et puis on s'égare. L'évangile nous dit que nous sommes adoptés, que nous n'avons pas à prouver notre valeur. Et pourtant, les pensées de ce monde nous disent souvent qu'il va falloir rentrer dans des mécanismes de compétition, et parfois même au sein de l'Église. Combien de fois on peut s'engager simplement en pensant qu'on doit gagner quelque chose ou prouver quelque chose? Les pensées nous assaillent et souvent elles vont nous amener dans des réflexes où notre vie va manquer de consécration. Et c'est pour ça qu'au verset 2, Paul va nous dire qu'au-delà de la consécration, nous sommes appelés à une vraie transformation. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Le mot qu'il y a derrière, c'est ce qui a donné métamorphose. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je ne sais pas pour vous, mais combien moi j'ai besoin d'être transformé. Et si vous en doutez, demandez à ma femme et à mes enfants. Et ils vous diront, papa, il y a des domaines où ils ne ressemblent pas trop à Jésus encore. C'est là où nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de cette transformation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut le faire en nous. Les autres fois, dans l'Écriture, où on trouve le mot « transformation », c'est lors de la transfiguration, par exemple. Vous aviez Jésus qui était sur la montagne, et tout à coup, il est transformé, il est glorieux. Une autre fois, c'est dans le livre des Corinthiens, quand il est dit que nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à son image par le Seigneur l'Esprit. C'est ça que Dieu veut produire. Et c'est quelque chose qui se situe dans nos pensées. Parce que la réalité en tant qu'humain, c'est que tout ce qu'on fait découle de nos pensées. Et le problème, c'est que souvent, nos pensées ne sont pas assez alignées sur l'Évangile, et c'est pour ça que ça nous amène à pécher. Il y a deux aspects dans l'aspect de laisser transformer nos pensées. Il y a un aspect d'accueil, on doit accueillir des nouvelles vérités, ce qu'on devrait faire. Mais il y a aussi un aspect négatif avec lequel parfois nous avons plus de mal, c'est un aspect de refus, de refuser aussi certaines pensées. Refuser certaines choses, de traiter durement, et parfois quand le monde ou notre chair veut nous pousser dans certaines directions, de dire non. N'est pas conforme à l'Évangile, je veux pas aller là-dedans. Je dois me rappeler les compassions de Dieu et ce que Dieu veut faire. D'où vient ce refus? Eh bien, il est lié à le refus des pensées du monde est lié à cette réalité que nous sommes un peu entre deux époques. Quand Paul dit « ne vous conformez pas au monde actuel », en fait, il veut dire à l'âge actuel, à la période présente. C'est dans ce sens-là qu'il utilise le mot « monde », l'ère présente. L'idée de la Bible, c'est que le monde se distingue en deux grandes époques. Une première époque qui a démarré à celle d'Adam et qui continue encore aujourd'hui, et dans laquelle nos corps sont encore. Et nous vivons dans cette réalité-là, un monde présent, un monde de ténèbres qui est dominé par le mal, par le diable, il est là. Et la réalité, c'est que dans ce monde, eh bien, il y a 2000 ans, il y a eu cette irruption, le Christ est venu, a envahi ce monde, a inauguré un nouveau royaume. Et ce royaume commence en nous. L'Écriture dira que nous sommes les prémices de la nouvelle création. Ces deux mondes sont tuilés. Et alors que nous sommes encore dans l'ancien monde, il y a déjà quelque chose en nous du nouveau monde, de l'âge à venir. Cet âge qui est annoncé dans Romains 8, une création complètement libérée du péché, et où toute la création aura part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et nous, nous sommes entre ces deux époques, où à la fois nous vivons encore dans le monde présent et avec toutes ces influences-là, mais en même temps, par l'Évangile, nous avons déjà accès à la pensée du nouveau monde. Et le combat de nos pensées, c'est de dire, est-ce que nous vivons, selon les principes de ce monde, chacun pour soi, le mal, la guerre, la compétition et toutes ces choses-là, ou est-ce que nous vivons déjà selon les principes du nouveau monde, à l'image de Jésus-Christ, marqué par l'humilité qui s'abaisse pour servir les autres et qui, à la fin, est élevé. Et nous avons besoin sans cesse de déceler dans nos vies ce qui relève des schémas de l'ancien monde et d'apprendre à penser selon le nouveau. Et Paul nous encourage, c'est ce qu'il dira plus loin dans Romains 13, verset 12, « La nuit est bien avancée, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. » C'est cette transition dont il est en train de parler. L'ancien monde, le nouveau arrive, bientôt toute la nuit va s'enlever, le jour éclatera. Nous le voyons déjà par la foi et ça devrait nous amener à penser selon des mécanismes nouveaux. Dans Éphésiens 4, verset 17, il dira « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leur pensée, mais au contraire avoir la pensée de Christ. » Et à chaque fois que Paul va régler les problèmes dans l'Église, constamment, il va travailler sur ses pensées. L'Église de Philippe est gangrénée par des conflits. Qu'est-ce que va faire Paul? Il va dire « Ayez en vous la pensée du Christ, qui au milieu des conflits, au lieu de chercher les parties, la vaine gloire, il s'est abaissé pour servir. » Et si vous faites ça, si vous prenez cette pensée du nouveau monde, ça va régler les problèmes. Ailleurs, aux Corinthiens, il appelle l'Église à la générosité radicale. Des gens qui ont leur argent pour eux, et tout à coup, il faut le donner pour la cause de l'Église, pour soutenir une autre Église. Et là encore, qu'est-ce que Paul va faire? Il va leur rappeler cette pensée. Le Christ qui était riche s'est fait pauvre, pour vous, pour que vous soyez enrichis. Si vous comprenez ça dans vos pensées, on n'a pas besoin de vous dire « tu dois donner, tu dois donner ». Naturellement, tu vas le faire, ta pensée va changer. Tu vas dire, mais en fait, dans ce nouveau monde, Jésus était pauvre, il était riche, il s'est fait pauvre, pour que moi je sois enrichi, mais donc je peux être généreux, c'est évident. Ça coule de soi, ce n'est plus une motivation légaliste, c'est simplement l'Évangile qui pénètre toutes mes pensées. Et plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous nous rendons compte à quel point des fois des choses qui étaient grossières dans nos vies sont réglées, mais à quel point des mécanismes profonds sont encore dans des pensées du monde ancien et doivent être transformés. Et c'est là où devons sans cesse répéter l'Évangile, le méditer, l'enraciner dans nos cœurs, nous redire, comme dit le cantique, l'histoire de la crèche à la croix pour qu'on imprègne ces pensées de l'Évangile et qu'on change. Alors Paul nous invite à cette consécration totale, offrir nos corps, veiller constamment à continuer à persévérer dans ce changement de pensée, pour avoir des attitudes ensuite qui soient alignées sur l'Évangile. Et si nous faisons cela, que nous sommes consacrés et que nos pensées changent, eh bien le premier endroit où on devait voir la transformation qui s'opère, c'est au sein de l'Église et de la communauté chrétienne. Et Paul va démarrer d'abord là, et puis ensuite, dans les textes qui suivent, il va montrer les comportements vers l'extérieur, et puis jusqu'au chapitre 15, où ça va aller vers la mission au loin. Mais d'abord, Paul démarre dans l'Église, au sein du peuple de Dieu. Et Paul va montrer que si nous avons la pensée de l'Évangile, ça devrait nous amener à vouloir servir ardemment avec le don que nous avons reçu dans l'Église. Pourquoi est-ce que nous servons dans l'Église? Parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Christ. Et que si nous comprenons bien cela, eh bien, une façon d'être consacré, d'offrir nos corps comme un culte, une louange à Dieu, eh bien, c'est de servir le peuple que Dieu a tant aimé, de servir les frères et sœurs, de servir son corps. Et Paul nous dit que le vrai service, il démarre d'abord par l'humilité, ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais de garder des sentiments modestes, verset 3, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que Paul veut dire? Dans ce monde, tout ce que les hommes font souvent est marqué par des compétitions. On cherche à être le premier. Et on voit bien que dans le royaume de Jésus, il y a cette tendance-là. Regardez les premiers disciples. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils n'osaient pas le dire parce qu'ils avaient discuté de qui était le plus grand. Et Paul va essayer de changer ça. Il dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. Vous devriez, au contraire, avoir des sentiments modestes. Pourquoi? Parce que toutes les capacités, tous les dons que vous avez, en fait, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous les a donnés. Et donc, si c'est Dieu qui vous les a donnés, si vous avez reçu des dons différents, verset 6, selon la grâce qui vous a été accordée, en fait, vous n'avez aucune raison à chercher plus que ce qui vous a été donné. De toute façon, ce que vous donnez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Au contraire, ça devrait se faire dans la mesure de la foi que vous avez. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que lorsqu'on utilise un don, un de nos dons, ben, en fait, c'est toujours en cohérence avec la foi, avec ce qu'on a reçu. Si à un moment, vous avez le don de générosité, de faire grâce, de donner, ben, lorsque vous donnez, vous devez avoir la foi que Dieu va continuer à pourvoir. Et donc, à un moment, votre don va être aligné avec votre foi. Lorsque vous enseignez, ça doit être aligné avec la foi que vous avez reçue, sinon vous enseignez du vent. Et c'est la même chose pour tous les domaines. Et donc ça devrait nous encourager à dire, ben, je donne avec ce que Dieu m'a donné, et pas au-delà, par contre, avec ce qu'il m'a donné, eh bien je le fais. C'est ce qu'il dira dans Éphésiens 4, verset 7, hein, « Chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Par la grâce qui m'a été donnée, pour lui c'était d'être apôtre, je vous dis, etc. » Et chacun, nous avons reçu une grâce. Et selon la grâce que tu es appelé à servir avec cela. Et Paul dira, mais pourquoi est-ce que nous pouvons servir avec modestie et en même temps dans une bonne complémentarité, à condition d'avoir une bonne compréhension du corps? Servir avec la grâce qu'on a reçue et servir en comprenant bien le corps. La réalité du corps, c'est que chaque chrétien a reçu un don et qu'on n'a pas tous les dons. Et ça devrait nous pousser à l'humilité. Aussi à réaliser que le don que nous avons, eh bien, il n'est pas pour nous, mais il est pour le corps. C'est ce que Paul nous dit. Hein. De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres, chacun pour sa part. Et donc, on doit se consacrer chacun à notre rôle. Notre don n'est pas pour nous, il est pour le corps. Mais ça veut dire aussi que tous les dons des autres sont pour notre bénéfice. Et ça devrait nous éviter la compétition. Imaginez une petite illustration, si je suis un œil, je peux me vanter d'être l'œil, et de dire à la main, tu ne vois pas. Et les pieds pourraient dire à l'œil, oui certes, sans toi je ne vois pas, mais sans moi tu ne vas nulle part. Et c'est cela dont il est question. C'est de dire que nous avons besoin les uns des autres. Et donc au lieu d'être dans la compétition, en fait, nous devrions chercher dans l'Église à servir chacun pour notre part, sachant qu'ainsi nous complétons les autres comme ils nous complètent. Même si je n'ai pas tous les dons, puisque nous sommes un corps, tous les dons des autres, d'une certaine façon, sont mes dons. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre un texte, par exemple, curieux, comme dans 1 Corinthiens chapitre 3, où ils se battent pour savoir qui est de Paul, qui est d'Apollos. Et à la fin du chapitre, vous voyez que Paul dit « Tout est à vous, Paul, Céphas, Apollos, Paul est à moi, Céphas est à moi ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que parce que quand nous sommes le corps, eh bien lorsque Pierre exerce son don, eh bien en fait c'est aussi mon don, parce que je suis uni à lui. Donc j'ai aucun intérêt à chercher à prendre sa place, puisque ce qu'il fait, d'une certaine façon, c'est aussi moi qui le fais, nous sommes le même corps. Par contre, à l'inverse, si moi je ne fais pas ce que je suis appelé à faire, eh bien en fait je suis en train de priver tout le corps de la bénédiction qu'il y aurait si j'utilisais mon don. Et donc si nous comprenons bien cela, si nous comprenons l'évangile qui nous appelle à être consacrés, à changer nos mentalités, ça devrait nous amener chacun de nous à nous dire « mais quelle est la place que Dieu me demande d'avoir ?» Et une fois que j'ai trouvé cette place, comment est-ce que je fais pour servir de tout mon corps, pour que l'ensemble de l'Église, l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble de l'œuvre de Dieu en bénéficie? Nous avons des dons différents, et donc nous sommes appelés à servir. Et Paul va donner plusieurs exemples de ce service. il va faire accent sur plusieurs dons. Il va dire, si par exemple tu as le don de prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si tu penses avoir reçu quelque chose à dire de la part de Dieu, mieux vaut que tu crois que ça soit vraiment de Dieu et que ça soit juste et que tu l'aies vraiment reçu, sinon ça va être compliqué. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas priver tout le corps. Et donc on voit que dans la façon dont on parle, il y a cet encouragement à exercer son don, à rejeter les tentations de passivité, même quand ça pourrait coûter. Nous avons reçu le don de la grâce de Dieu, et nous sommes appelés à l'utiliser avec la force que Dieu nous donne. Dieu ne fait pas à notre place. La façon de Dieu d'agir au travers des dons, c'est de nous les donner. Ensuite, c'est à nous de le faire. Et si on ne le fait pas, on prive l'Église. La façon dont Paul distingue l'exercice des dons montre qu'on ne devrait pas utiliser le don qu'on n'a pas. Je vous ferai grâce de chanter en public. Ce n'est pas mon don. Et donc, à un moment, je peux être reconnaissant de voir des gens comme Charlotte qui ont une belle voix. Et du coup, je peux dire, ouais, merci Seigneur pour ce don que tu m'as donné au travers de ma sœur, parce que toute l'Église en bénéficie. Et inversement, nous pouvons réjouir les uns des autres et exercer nos dons de la bonne façon. Paul continue ici. Quelqu'un enseigne, eh bien, qu'il se donne à son enseignement. Et on sait combien l'enseignement est coûteux. Parce que derrière les quelques minutes que vous avez au pupitre, il y a des heures de préparation et puis une vie derrière à apprendre des choses. Et parfois, on peut être découragé en tant qu'enseignant de se dire « j'enseigne dimanche après dimanche » et puis est-ce que seulement il en reste quelque chose ? Des fois, les gens viennent vous voir à la fin du culte. « Ah, c'était bien, merci beaucoup. Ah bon, qu'est-ce que tu as retenu ?» On dit « Oh là 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 !» Et Paul pourtant nous dit « Mais continue, c'est ton don, il est pour l'Église. » Et de la même façon que Christ s'est donné à fond, mais n'essaie pas de faire autre chose si c'est ce à quoi je t'appelle, mais dis tout ton cœur. Paul continue ensuite, et il parle du don d'encouragement. Si tu as le don d'encourager, encourage. Vous savez, il y a des gens des fois qui ont ce don vraiment de miséricorde, d'encouragement et de faire du bien aux gens, mais parfois quand vous avez à cœur il y a des gens, dès que quelqu'un va mal, vous savez qu'ils vont prendre le téléphone pour appeler. C'est leur don, c'est comme ça. Mais à force, quand vous êtes avec des gens qui sont dans la souffrance, parfois ça peut finir par vous tirer vers le bas. Et vous gardez votre cœur parce que vous êtes tiré vers ceux qui ne vont pas bien. Mais à force vous-même d'être tiré par le bas, en fait, vous finissez par vous apitoyer avec eux au lieu de les relever. Et Paul dit non. Si tu as ce don d'encouragement, c'est pour encourager. C'est pas pour abaisser les autres. Utilisez son don de la bonne façon. Il va dire, mais si ensuite tu as le don de leadership, de direction, eh bien dans ce cas-là, tu dois le faire avec zèle. Pour les leaders ici, vous savez sans doute combien le leadership est fatigant. Parfois, vous poussez pour que l'Église avance pendant des mois, des années. Et puis, vous êtes là et le problème dans l'Église, c'est un système. Et en physique, on dit que les systèmes ont tendance à être homéostatiques, c'est-à-dire qu'ils reviennent toujours à l'équilibre. Et vous êtes convaincu qu'il faut aller à un autre endroit. Et donc, qu'est-ce que font les leaders ? Eh bien, ils poussent. Et puis, à force de déranger le système, tout à coup, vous passez à un autre niveau. Et puis, tout le monde est un peu secoué. Et puis, tac, ça se stabilise à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit recommencer. Et donc, qu'est-ce qui se passe souvent ? C'est qu'au bout d'un moment, le leader se fatigue, s'épuise. Et c'est là où, tout à coup, eh bien, tout commence à juste stagner. Et le risque, c'est de tomber dans une forme d'apathie et de mourir. Et c'est Paul dit, mais si tu présides, veille sur ton zèle. Si tu exerces la bienveillance, garde ta joie. Exercer son don de la bonne façon, même quand c'est coûteux. Beaucoup de gens dans la Bible ne voulaient pas exercer leur don. Moïse voulait quitter son poste. Jérémie ne voulait pas être prophète. Ils avaient le don. Ils avaient reçu cette grâce-là, c'était leur appel. Paul dit, mais si tu es appelé à être leader, si tu es appelé à enseigner, fais-le avec zèle. Il y a une part de renoncement à soi, comme Christ lui-même a renoncé pour pouvoir nous sauver. Et si on comprend bien l'Évangile, si nos pensées sont transformées, si elles ne sont pas celles du monde, eh bien ça veut dire que chacun dans l'Église en fait devrait se presser pour servir. Comment savoir où est-ce que je suis appelé à m'impliquer ? Alors, la mode dans l'Église ces dernières années, ça a souvent été de faire des quiz pour savoir quel était son don. Pendant 2000 ans, on n'a pas fait ça. Hein. C'est très récent tout ça. Pendant 2000 ans, c'était simplement les gens pris d'amour pour le Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Ils servaient le Seigneur. Et ceux qui trouvaient leur don naturellement comme ça, on les laissait faire. Et puis d'autres, parfois, eh bien, quand ils avaient besoin un peu plus d'encouragement, quelqu'un venait les voir et disait, tu sais, tu es doué pour faire ça, tu devrais continuer. C'est comme ça qu'on trouvait son don. Le don, on le trouvait simplement quand on est proche du Seigneur et que du coup, motivé par l'Esprit du Seigneur, on se dit, mais là, je vois qu'il y a un besoin, je ne peux pas rester sans rien faire, je commence à servir avec zèle partout où je peux, et puis à force de tailler ses crayons, on finit par trouver celui qu'on préfère et celui qui est le bon. Et c'est l'Église locale qui reconnaît les dons et qui souvent va donner de l'encouragement et va dire, mais tiens, telle personne, c'est évident, c'est elle qu'il faut mettre là. Quand Paul parle de l'Église et de mettre son don au service du corps, je pense qu'il a aussi une compréhension peut-être plus large que ce que nous avons quand on parle de l'Église, où très souvent notre culture évangélique a fait qu'on pense à l'Église locale. Et donc on se dit, ben voilà, chacun a un don, et il doit servir ici, alors peut-être pas juste dans le bâtiment, mais en tout cas dans la structure, et souvent on a cette pensée restreinte. Mais la façon dont Paul est en train d'écrire son mouvement dans la lettre aux Romains, rappelez-vous, il vient de finir 3 voyages missionnaires, il est en train de réfléchir à aller jusqu'en Espagne, et 2 chapitres plus loin, il va les appeler à l'accompagner, et ça voulait dire probablement pour certains financer la mission, pour d'autres prier pour ça, pour d'autres encore aller avec lui. Si vous regardez dans le chapitre 16, il va saluer tous ses compagnons d'œuvre qui sont dans d'autres églises, et il va montrer qu'il y a de l'interaction dans ces gens-là. Et donc la compréhension que Paul a du corps est plus vaste simplement que l'église locale. C'est l'église royaume de Dieu qu'il est en train de viser, et où nous sommes appelés tous à servir. Et donc ça veut dire que peut-être pour certains, le don que Dieu a donné pour le service de l'église, vous allez l'utiliser particulièrement le dimanche matin, ou dans le fonctionnement de l'église locale qui est pleinement corps, pleinement église ici. Mais peut-être que pour d'autres, Dieu vous appelle à servir l'église avec des ministères peut-être moins visibles, mais qui ont lieu aussi la semaine. Parce que Dieu vous a placé à des endroits où il vous a donné des vrais dons spirituels pour accroître le témoignage de l'église dans le monde du lundi au samedi. Et en le faisant, vous servez aussi l'église. Et peut-être que parfois, vous vous dites, mais voilà, moi, la semaine, je suis fidèle, je témoigne, je sens que ça porte du fruit, mais des fois, j'aimerais bien être un peu plus visible le dimanche matin. Et c'est là où ce passage doit aussi nous encourager. Dire, mais non, ceux qui exercent leur don le dimanche, c'est aussi tes dons. C'est l'ensemble du corps qui s'exprime, et toi, tu es là pour ta part. Pourquoi est-ce que Paul disait cela ? Et pourquoi est-ce qu'il voulait que les chrétiens de Rome, chacun pour leur part, soient pleinement impliqués, pleinement consacrés ? Parce que Paul était conscient que si l'église de Rome devait être un jour une base missionnaire qui porte l'évangile plus loin, il fallait que cette église soit en bonne santé. Et pour que cette église soit en bonne santé, il fallait que l'évangile soit bien compris, il fallait que chaque chrétien soit pleinement consacré, que constamment il se laisse transformer par la méditation des Écritures, par la prière, et que chacun soit au service. Lorsque vous avez dans le corps un endroit qui souffre, il y a quelque temps j'avais un abcès aux dents, mais je peux vous dire que pendant plusieurs jours j'étais mal partout, alors que c'était un seul endroit, tout petit, qui faisait mal. Mais tant que c'était pas réglé, rien ne fonctionnait correctement. On n'arrive pas à se concentrer, on est gêné dans tout ce qu'on fait. Et dans l'église c'est pareil. Lorsqu'il y a un membre qui dysfonctionne, tout dysfonctionne. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour chacun d'entre nous que nous puissions nous dire, mais est-ce que ma vie est alignée sur l'Évangile ? Est-ce qu'elle est consacrée ? Est-ce que je mets mes dons au service de l'Église, à ma juste place, dans la bonne attitude, en lien avec ceux des autres ? Et si tu te poses des questions, et si tu te dis, ah, en entendant ce message, je me dis, ça me parle. Je faisais telle chose, et puis j'ai lâché mon service. Et je crois qu'il serait bon que je reprenne. Va voir les responsables. Dis-leur, ça me parle, je sens qu'il faut que je m'y remette. Ou alors si tu te dis, tiens, ça fait longtemps, il y a une fois, deux fois, trois fois, un frère, une sœur, un autre frère qui sont venus me voir et m'ont dit, tiens, toi, t'es doué pour faire ça. Tu devrais le faire. C'est peut-être l'occasion de se dire, mais c'est le moment. Dieu t'appelle. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a déclaré juste. Il a fait de toi son enfant. Il te destine à la gloire. Il veut te transformer à l'image de Christ. Ça passe par le service. L'Église a besoin de toi pour continuer la mission. Peut-être que pour d'autres, personne ne vous a jamais rien dit. Vous n'avez jamais commencé, mais vous avez quelque chose au fond de vous qui brûle. Toutes les fois que vous lisez la Bible, vous sentez quelque chose qui revient, sur lequel Dieu vous titille. Vous savez, parfois, ça devient tellement que c'est presque une obsession. Parlez-en. Allez voir les responsables et dites-moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu me met à cœur telle chose dans l'Église, ou telle chose dans le monde en lien avec l'Église, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je devrais faire? Et parce que ce sont de bons responsables, ils vont prendre le temps de t'écouter, de prier pour toi, ils seront heureux. Souvent, en tant que responsable, une des pires souffrances, c'est de voir 10, 15, 20% de l'Église qui fait tous les postes et qui souvent sont fatigués. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, donne-nous des ouvriers. Il y a besoin. Que Dieu vous aide, chacun, à trouver votre place. Que cette Église ici à Lyon soit pleinement active dans le corps, en lien avec ce qui se passe ici, en lien avec d'autres églises que vous soutenez, avec qui vous étiez en contact. J'étais encouragé de voir dans les annonces différents ouvriers, ce réseau. C'est un peu de Romains 16. De voir les liens, comment vos dons, ce que vous faites, sert aussi l'Église globale. Je vous invite à prier pour terminer. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Paul qui était un serviteur fidèle et qui est resté fidèlement attaché à l'Évangile, fidèlement attaché à l'expansion de ton Église. Seigneur, merci parce que son message est encore actuel pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous avons reçu tellement de tes compassions. Tu nous as déclarés justes. Tu as fait la paix avec nous. Tu nous as donné tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie qui t'honore. Tu nous as libérés de toute condamnation et tu nous appelles à la gloire. Seigneur, je te prie que cet évangile nous saisisse à un point que nous puissions dire « Mais oui, la seule chose qui est raisonnable en réponse à ça, c'est que ma vie te soit consacrée. Toute ma vie, que tout ce que j'ai, tout ce que je sois, j'en sois simplement l'intendant et que ça soit à ton service. Seigneur, pardon pour toutes les fois où le relâchement, notre chair, la pensée du monde fait que nous avons tendance à réduire notre consécration. Seigneur, je te prie pour que tu viennes encore transformer nos pensées, que tu les alignes davantage sur l'Évangile et que de là en découlent des comportements, un caractère, une vie à ta gloire. Merci pour ton œuvre ici que tu fais dans cette Église et la transformation que tu as déjà faite dans chacun de mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, que tu puisses la continuer, que chacun trouve sa place, puisse te servir avec joie pour l'Église, pour le progrès de l'Évangile en dehors de l'Église, pour l'avancée de ta mission. Merci, Seigneur, pour ce que tu touches peut-être ce matin et que tu appelles à se reconsacrer à toi, à reprendre un service, à persévérer fidèlement là où tu les as mis, à peut-être oser lancer quelque chose auquel tu les appelles. Seigneur, merci parce que tous nos dons sont à chacun d'entre nous, collectivement, parce que tu nous as unis dans un même corps. Et Seigneur, je te prie que là où le monde est marqué par la compétition, l'orgueil, la rivalité, le mépris des autres, que dans ton Église, nous puissions apprendre à travailler la complémentarité, le soutien mutuel, l'encouragement, afin que ton corps grandisse ensemble. Voyons cette ville de Lyon, avec tellement d'âmes autour qui ont besoin de toi. Seigneur, je te prie pour que l'Église ici soit un corps vivant, fonctionnel, vibrant de l'Évangile, parce que chaque membre aura sa place et que l'Évangile puisse transformer un grand nombre d'âmes autour et permettre à cette communauté de grandir, à d'autres églises de naître et à l'Évangile d'aller encore plus loin, Seigneur. Amen.